Je suis à Neuchâtel, ma sœur kinésithérapeute depuis 2006, et je travaille actuellement dans un cabinet libéral à Lyon, où j'ai aussi une activité en parallèle sur de la recherche, développement et formation au sein d'Aliane. Le thème est donc sur comment peut-on potentialiser la prise en charge des séquelles d'AVC par un travail spécifique d'imagerie mentale. Donc, dans les suites post-AVC, vous êtes régulièrement confronté à des séquelles motrices, entre autres. Donc, sur les séquelles motrices, on va retrouver tout ce qui est spasticité, syncinésie, des déficiences motrices plus spécifiques, des altérations de l'équilibre postural. Dans tous les cas, on est sur une rééducation qui est souvent lente, longue. Les résultats sont bien sûr très variables, malgré une forte implication de votre part et de celle du patient. La question est, est-ce qu'on peut booster un peu cette prise en charge par du travail d'imagerie mentale et d'imagerie motrice? Donc, les freins, les limites de la rééducation, vous les connaissez déjà, sont bien sûr dépendantes du site de la lésion neurologique et sont propres à chaque patient en fonction de son âge, de la distance par rapport à la survenue de l'AVC, du délai de prise en charge par rapport au service d'urgence. Est-ce qu'il y a eu entre autres une thrombolyse quand on est dans un AVC ischémique? Il y a un autre frein qui est également ce qu'on appelle la notion d'inhibition motrice, c'est-à-dire une mise en réserve des capacités motrices suite à un traumatisme. C'est un mécanisme qui est à la base naturel et physiologique, qui est entre guillemets une anesthésie du mouvement suite à un stress intense, un trauma physique ou psychologique. Donc sur cette notion d'inhibition motrice, donc bon, pour effectuer un geste, on a en général un certain nombre de contractions musculaires qui interviennent selon une coordination, une synchronisation qui est bien définie. L'inhibition motrice, d'un point de vue donné de littérature, elle est soit due à l'inactivation prolongée d'un muscle, donc une cause physique, par exemple dans les suites d'une immobilisation longue, une chirurgie, une orthèse, la réanimation, un alignement prolongé, soit due à un blocage psychologique, le fait d'être en évitement, en appréhension, qui résulte en général d'un traumatisme physique. Il faut quand même savoir que la kinésiophobie a une prévalence de 50 à 70% chez les patients qui présentent des douleurs chroniques, avec une peur de la récidive, une peur d'une augmentation de la spasticité, une peur de la chute, une fatigue importante, le tout limite en fait le retour à l'activité. Donc justement, les conséquences qu'on a qui sont décrites dans la littérature, en orthopédie et en neurologie de cette inhibition motrice, tout d'abord le fait que on a un enchaînement dysfonctionnel qui va se mettre en place. Donc sur cette première étude de 2005, donc qui concerne plutôt l'instabilité de cheville, va nous montrer qu'en fait on a une activation des fibulaires qui a lieu en dernier au lieu d'être en première position, c'est-à-dire qu'on a vraiment un nouveau mouvement qui est créé qui est adaptatif avec une perturbation du pattern moteur. Deuxième étude de 2014, toujours qui relate cette notion d'inhibition motrice et qui nous indique qu'on a une perturbation de la qualité de la contraction musculaire. Cette étude-là a été faite sur le genou. C'est vrai que dans la littérature, on a pas mal de choses qui sont faites plutôt dans la traumato sur la notion d'inhibition motrice et beaucoup sur le genou et entre autres sur les suites de ligamentoplastie. Donc, les résultats d'études indiquent que les traumatismes méniscaux et l'atteinte du cartilage provoquent une perte de force de 23,6% de la jambe atteinte par rapport au côté sain. Et dans les suites d'une immobilisation de 45 jours, la perte de force va jusqu'à 30%. Et enfin, la dernière étude sur cette très belle thèse d'Aurore Meugnot en 2014, qui constate que, en fait, c'est une étude où elle a immobilisé le coude de certains patients et constate qu'au niveau cérébral cortical, on a un effacement progressif de cette image motrice sur le plan cortical. Donc voilà un petit peu ce qu'on a sur cette notion d'inhibition motrice, donc sur cette mise en réserve des capacités. Julien de Ajuria-Guerra, qui est un neuropsychiatre et psychanalyste, qui a d'ailleurs contribué à l'émergence de la psychomotricité, émet l'hypothèse comme quoi le désordre moteur n'est pas d'origine déficitaire, mais provient d'un dysfonctionnement de la réalisation motrice. C'est-à-dire que la mise en place de ce mécanisme d'inhibition, l'origine de ce mécanisme d'inhibition, serait plutôt à la base de la conception motrice et non pas en distal sur les afférences proprioceptives. Donc en fait, il est vraiment sur le fait que l'ordre moteur vient d'en haut, c'est-à-dire vient directement du cerveau. Dans cette inhibition motrice, on a donc deux visions, on va dire, concernant l'origine d'une apparition de cette mise en réserve de capacité. Donc, je vous rappelle, dans les suites d'un traumatisme mécanique, donc qui est normal, qui est temporaire normalement, qui est naturel de protection, et où l'inhibition sur la vision distale serait causée par une diminution de l'activation des récepteurs sensoriels par des facteurs qui peuvent être dus comme l'inflammation, la douleur. En gros, on évite de bouger l'endroit qui fait mal. On a du coup une réflexion sur une origine, une étiologie qui serait plutôt proximale, c'est-à-dire que sur le plan cortical, l'action motrice enclenchée par le cortex va être filtrée par les ganglions de la base, et le thalamus qui vont bloquer les actions quand elles sont inadaptées ou non sécurisées. Donc en fait, le défaut d'utilisation temporaire du muscle va créer un effacement progressif de sa représentation corticale normale de contraction et après, l'inhibition par le thalamus va persister alors même qu'elle n'a plus lieu d'être. Donc en fait, le pattern moteur est toujours perturbé. En gros, c'est un petit peu le chat qui se mord la queue. Le membre est immobilisé pour diverses raisons. On a parlé d'alitement, on a parlé de réanimation, on a parlé d'attel. Le membre est immobilisé, il n'y a plus de retour proprioceptif et derrière, le thalamus va bloquer, va engranger cette nouvelle information et va garder le fait que le membre est immobilisé. Donc dans les suites d'un AVC, qu'est-ce qui fait qu'on a des capacités de récupération? Il y a bien sûr cette notion de plasticité. Dans la plasticité, il faut pas oublier qu'en fait on a deux versants dans la plasticité. Donc pareil, là on est sur diverses études qui ont été en général plutôt réalisées en post-amputation. La plasticité, c'est donc tout d'abord cette capacité du cerveau à créer, renforcer de nouvelles connexions et neurones. Donc c'est ce qu'on connaît effectivement dans les capacités de récupération post-AVC, mais c'est également cette capacité à faire disparaître des cellules par défaut d'utilisation ou de non-sollicitation, ce qui rentre en fait complètement dans le cadre de notre inhibition motrice. C'est-à-dire que les connexions non utilisées sont rayées de la carte. Toujours dans les capacités physiologiques de modification, on a deux types de neuroplasticité, c'est-à-dire deux types de facteurs qui peuvent influencer cette plasticité. On a celle qui est plasticité, qui est dite d'activité dépendante, qui est en fait l'apprentissage, c'est-à-dire le fait d'effectuer un mouvement plusieurs fois qui permet de l'ancrer. Il est donc de fait intéressant de travailler en situation et en contexte. Et on a la plasticité qui est dite de compensation spontanée, donc justement celle qui se met en place dans les suites d'un traumatisme avec une réorganisation spontanée, avec entre autres l'utilisation des voies polysynaptiques cortico-réticulospinales ainsi que les voies ipsilatérales. Ça va permettre de développer du coup un nouveau schéma moteur, de développer de nouvelles connexions synaptiques, et ce schéma moteur peut être dit entre guillemets positif ou négatif. Le négatif, c'est bien sûr la boiterie, c'est la syncinésie. Dans ce cas-là, il faudrait idéalement désapprendre ce mauvais schéma moteur pour reconstruire le nouveau. Et je pense que vous avez déjà tous essayé de contrer une syncinésie ou une boiterie quand elle est en place. C'est extrêmement compliqué et fastidieux de s'en défaire de manière active. Donc là, on va plonger un petit peu dans la commande motrice et cette notion de proprioception, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe au niveau cérébral lorsqu'on initie un mouvement. On a d'abord une première étape ici qui concerne l'intégration et la planification. Donc le cortex pariétal va recevoir des afférences extéroceptives, sensorielles par exemple, par la voie directe, ainsi que des afférences proprioceptives qui elles vont faire relais par le thalamus. Donc on est du coup sur la voie réticulo-thalamo-corticale. Ce cortex pariétal va alors élaborer un brouillon du mouvement qui va envoyer au cortex préfrontal et frontal, donc vraiment sur cette partie là. Et ce cortex préfrontal et frontal vont déjà affiner un petit peu ce brouillon et effectuer entre guillemets un premier jet du mouvement qui vont soumettre en relecture aux ganglions de la base et au thalamus. C'est en quelque sorte la zone de filtrage, c'est les douaniers à l'ancienne, c'est eux qui intègrent des informations et qui définissent les caractéristiques des mouvements. Et donc, s'ils considèrent dans cette zone de filtrage que ce brouillon, que ce premier jet de mouvement est en adéquation avec les capacités anatomiques, avec les capacités physiologiques, derrière, on passe à la deuxième étape qui est celle de l'exécution ici. Et la commande est donc envoyée au niveau des aires motrices supplémentaires et des aires prémotrices qui, elles, vont définir très précisément la force, l'intensité et la qualité du mouvement. Et également au cervelet qui lui va travailler sur tout ce qui est la coordination. L'ensemble va transmettre ce script du mouvement au cortex moteur primaire qui va donc lancer l'exécution du mouvement en passant bien sûr par la moelle épinière, enfin le tronc cérébral à la moelle épinière jusqu'à arriver au motoneurone musculaire. Dans le cas d'une inhibition, le thalamus bloque le mouvement parce qu'il le considère comme non adapté, non sécurisé, non réalisable, c'est-à-dire qu'il a gardé en fait en quelque sorte le schéma post-opératoire, le schéma du traumatisme, le schéma de l'alitement, le schéma de non-mobilisation. Donc vous avez donc compris que la plasticité de compensation spontanée est dépendante de l'action du thalamus qui lui-même est en lien avec les afférences proprioceptives qu'il reçoit. Dans les suites de l'AVC, l'immobilisation prolongée, l'appréhension, la fatigue limitent les mouvements et donc modifient ces informations proprioceptives, créant cette notion d'inhibition motrice par effacement progressif de l'image motrice sur le plan cortical. Cet effacement va limiter lui-même les possibilités de mouvement qui contribuent à la perte de trophicité et de capacité motrice. Ajoutez à cela la lésion neurologique initiale, vous comprenez donc pourquoi est-ce qu'on est sur une rééducation qui est lente, qui est longue et qui est rarement avec des bénéfices à 100%. Donc en gros, c'est un peu le bazar. On est dans un système de boucle infernale qui se met en place très rapidement. Et c'est pourquoi la rééducation est donc, je vous l'ai dit, longue et lente. L'idée, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour limiter, orienter ces mécanismes qui se mettent en place? Comment est-ce qu'on peut faire pour réapprendre un mouvement, non pas en distal, mais directement au niveau de sa jeunesse corticale? Comment est-ce qu'on peut orienter cette plasticité de compensation spontanée et du coup limiter cette notion d'inhibition motrice? C'est là qu'on va parler justement imagerie motrice, proprioception, donc reprogrammation neuromotrice un petit peu autrement. J'ai dit autrement parce que on est sur quelque chose de différent que de la reprogrammation neuromusculaire que vous connaissez tous. La reprogrammation neuromotrice, on est sur un procédé qui permet de modifier, corriger ou acquérir un automatisme moteur. La reprogrammation neuromusculaire, on travaille vraiment sur les récepteurs proprioceptifs. L'objectif ici est donc de modifier un mouvement directement au niveau de sa genèse corticale plutôt que d'intervenir à l'étape finale du geste. Cette reprogrammation neuromotrice, elle repose sur un trépied, sur de la proprioception, qui est une prise de conscience des muscles impliqués dans le mouvement, donc l'acquisition des sensations proprioceptives, c'est ce qu'on appelle la reprogrammation neuromusculaire, de l'imagerie mentale qui va permettre d'activer les zones cérébrales qui sont responsables du mouvement et de les intégrer en corticale, et surtout d'intégrer ces sensations proprioceptives sur le plan cortical, et des sons de basse fréquence qui vont permettre d'installer durablement le mouvement avec un ancrage en sous-cortical. Je vais maintenant vous détailler chaque point, proprioception, imagerie mentale et sons de basse fréquence, leur importance dans ce trépied de reprogrammation neuromotrice. Donc tout d'abord, la proprioception. Afin de travailler avec les sensations proprioceptives du patient, il nous faut donc dans un premier temps déterminer les inhibitions motrices qui vont être présentes et qui modifient l'exécution du geste. Dans un bilan neurologique, c'est faire l'état des syncinésies, c'est faire en fait ce bilan moteur en termes de spasticité, en termes de capacité motrice volontaire et également en termes de capacité motrice, on va dire réflexe et automatique. On va donc chercher qu'est-ce qui modifie l'exécution du geste, qu'est-ce qui entraîne une diminution du recrutement de certains muscles principaux qui sont responsables du coup du mouvement laissé, ainsi que d'un recrutement plus important des muscles environnants. Typique, par exemple, sur l'épaule hémiplégique, la spasticité est en quelque sorte une première ébauche de motricité. C'est la première motricité qui apparaît après la phase de flaccidité, quand elle apparaît. Sur une épaule, on a souvent une spasticité au niveau grand pectoral qui va enrouler cette épaule avec un recrutement dans un premier temps d'un point de vue moteur du trapèze supérieur et une inhibition qui va se mettre en place progressivement sur tout ce qui est deltoïde avec la coaptation gléno-humérale et également toute la coiffe des rotateurs pour permettre une bonne cinématique de l'élévation. On cherche donc un petit peu à comprendre qu'est-ce qui met en place tous ces mécanismes de compensation. Et donc pour cela, on va effectuer une analyse biomécanique visuelle. Donc moi, j'aime bien utiliser tout ce qui est support vidéo, photo, afin que le patient prenne conscience de son schéma moteur actuel et proprioceptif. Donc là, sur une évaluation, on va dire motrice avec le patient, on est typiquement sur un bilan qualitatif, quantitatif que vous connaissez bien. Une fois qu'on a détecté, qu'on a mis un peu le point sur les éléments du bilan qui vont être à traiter, on a vraiment un travail proprioceptif qui va se mettre en place. Et là, on va demander au patient d'avoir une description très précise de son ressenti, des sensations de son geste qui ne va pas. Dans un premier temps, on va chercher sur ce qui ne va pas, avec une prise de conscience du schéma moteur en termes de fluidité, de qualité de recrutement musculaire, éventuellement de force, éventuellement de puissance, éventuellement d'explosivité, éventuellement de capacité de résistance, d'endurance, de précision, de stabilité. Tout ça, que ce soit en chaîne cinétique ouverte, chaîne cinétique fermée, concentrique, excentrique, isométrique, l'objectif est d'être au plus proche du schéma fonctionnel. Bien évidemment, un quadriceps, par exemple, dans le cas d'un récurvatum de genou, se travaille en chaîne fermée et non pas en chaîne ouverte, puisque le schéma fonctionnel dans ce récurvatum de genou, il est fait en chaîne fermée. On est donc sur tout un travail des perceptions kinesthésiques et statesthésiques, pardon. Et vous vous souvenez qu'on a besoin de toutes ces caractéristiques-là parce que les aires motrices supplémentaires et les aires prémotrices ont besoin de définir toutes ces caractéristiques motrices pour embrayer le mouvement. On va faire exactement le même travail en miroir sur le membre sain, c'est-à-dire aller chercher sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que ce côté-là fonctionne bien. Il est bien sûr idéal d'utiliser des petites notions d'anatomie relativement simples par des schémas, par des planches d'anatomie relativement simples afin que le patient comprenne au mieux qu'est-ce qui se passe. Le deuxième point, c'est l'imagerie mentale. Alors, l'imagerie mentale est largement documentée depuis des années dans la littérature, largement utilisée dans le domaine du sport, et tout doucement commence à faire sa place dans le domaine de la rééducation. Donc, l'imagerie mentale, c'est juste la capacité à se projeter, à imaginer un mouvement ou à réimaginer une situation. En fait, on fait tous déjà de l'imagerie mentale au quotidien. Quand on fait appel à un souvenir, quand on se projette dans une situation, on est déjà dans une imagerie mentale. Donc, dans tous les cas, on peut pas dire que le cerveau ne fait pas la différence, en tout cas, entre un mouvement réellement réalisé et un mouvement qui est imaginé. En fait, le travail mental va être particulièrement efficace puisque quand on ne peut pas bouger un membre, on peut dans tous les cas imaginer le mouvement de ce membre et du coup entretenir la connectivité. Entre l'imagerie mentale et le mouvement réellement réalisé, on a également une équivalence neurovégétative qui concerne tout ce qui est les modifications du rythme cardiaque, les réactions cutanées, tout ce qui concerne le plan neurovégétatif. Et là où ça va être relativement intéressant, c'est sur le plan de la performance. On a cette étude de 95 qui à l'époque avait été réalisée sur des pianistes qui montrait que 2 heures de travail physique associé à du travail en imagerie mentale équivalait à 10 heures de travail physique, c'est-à-dire qu'on a réellement un gain de temps. On a une autre étude ici en 92 qui indique que le travail en imagerie mentale permet une amélioration de 30% d'augmentation de la force maximale volontaire. Et sur les dernières études, la 2001 et 2015, ce sont les études qui vont s'intéresser à distinguer plusieurs types d'imagerie mentale. L'imagerie mentale qui est la plus connue, c'est l'imagerie mentale visuelle. Donc, c'est vous, ce que vous faites spontanément quand vous vous projetez dans un souvenir, quand vous vous projetez dans une situation à venir. L'imagerie mentale visuelle, elle peut être dite extrinsèque ou dissociée, c'est-à-dire à la troisième personne. C'est quand on montre la vidéo à quelqu'un. Donc, quand je filme mon patient et que derrière, je lui montre cette vidéo-là, derrière, quand il va mémoriser ce film-là, il est sur de l'imagerie mentale visuelle extrinsèque ou dissocié. Donc, c'est par exemple, je vois un film de moi en train de marcher. On a de l'imagerie mentale toujours visuelle qui est dite intrinsèque ou associée, qui est en quelque sorte à la première personne. C'est le principe de la caméra embarquée. Je suis à l'intérieur de moi et je me vois en train de marcher. Et enfin, on a une autre imagerie mentale qui est dite kinesthésique, qui est relativement intéressante. Donc, par exemple, lors de la marche, je perçois mes appuis au sol, les mobilités articulaires, le travail des débattements articulaires. Bref, toutes ces études 2001-2005, qu'est-ce qu'elles nous montrent? Que, en tout cas, l'imagerie mentale kinesthésique est plus puissante que l'imagerie mentale visuelle seule pour l'apprentissage d'un mouvement. D'où l'intérêt, du coup, d'utiliser des sensations proprioceptives dans la reprogrammation motrice. D'où l'intérêt de demander au patient de créer une image motrice de son geste qui va être couplée à une image, justement, kinesthésique, sur cette sensation proprioceptive. Les sondes basse fréquence. Donc, pour ancrer en sous-cortical, on va utiliser des sondes basse fréquence qui sont émises par un dispositif médical dans le but de passer le patient en mode alpha d'activité cérébrale, c'est-à-dire que le mode alpha, on est sur un rythme qui est entre 7 et 14 Hz à l'EEG. Pourquoi le mode alpha? On sait en fait que les ondes alpha ont un rôle clé dans la filtration de l'information par les neurones parce qu'elles permettent de focaliser l'attention sur certaines activités au détriment du reste. En effet, elles permettent du coup d'inhiber l'excitabilité d'une certaine population de neurones pour permettre l'hyper-excitabilité d'autres régions. Le patient est donc en quelque sorte dans un état d'hypovigilance, mais surtout d'hyperactivation au niveau de la motricité. C'est ce que nous a écrit Catherine Kerr avec sur cette modulation attentionnelle des rythmes alpha qui joue un rôle clé dans le filtrage de l'information au niveau du cerveau. Donc, on est vraiment sur cette zone de filtrage. Le thalamus est un gros consommateur d'alpha. On va utiliser 2 types de sons pendant cette séance. Donc, des sons qui vont être dits pulsés, qui vont accompagner un petit peu le patient tout au long de la séance. Et des sons qui vont être dits associés, qui lui sera spécifique au patient, sera choisi par lui-même et qui l'accompagnera dans son travail cognitif et qui permettra de valider chaque élément qu'on aura mis en place, chaque modification qu'on aura effectuée. Alors, qu'est-ce que ça donne un petit peu d'un point de vue clinique? On est sur un cas clinique de spasticité qui présente une spasticité au niveau des gastrocnémiens avec une spasticité à 1+2 sur l'échelle d'Ashworth, avec cette accroche qui est relativement nette sur bien la moitié de l'amplitude sur le test spastique des gastrocnémiens. On a exactement la même chose au niveau du solaire, du coup en genou fléchi bien sûr. avec une petite trépidation ellipsoïde. Il a été fait une séance de reprogrammation neuromotrice. Voici les résultats qui sont obtenus. Voilà, donc avec un travail sur l'activité excentrique du triceps sural. Donc une mobilisation qui est nettement plus fluide. On a plus ce phénomène d'accroche, que ce soit sur les gastrocnémiens comme sur le solaire. Donc en ce qui concerne justement la régulation de la spasticité d'un point de vue étude clinique, donc nous, qu'est-ce qu'on a d'un point de vue un petit peu étude clinique? On constate une régulation de la spasticité, j'utilise plutôt ce terme de régulation, de moins 1,41 points en moyenne sur l'échelle d'Ashworth en fin de séance, avec un maintien à un mois pour 70% des patients en moyenne. Donc là, on était sur une étude qui avait été faite sur une série de 22 patients. Vous voyez la baisse du score Ashworth qui est à 66,6% sur la majorité des patients pour le gastrocnémien à 1 point et 50% des patients à 2 points pour le solaire. Avec cette évolution du score Ashworth à 1 mois, donc là on est sur du avant-après séance à 1 mois, on a un maintien de cette baisse du score Ashworth à 87,5% pour les gastrocnémiens et à 60% pour le solaire. Alors un cas clinique justement sur un exemple de Synésie. On est sur une femme, la quarantaine, qui a présenté une rupture d'anévrisme qui a entraîné une hémiparésie droite. Il n'y a pas de spasticité pour le coup. Quand on lui demande un mouvement d'éversion de cheville, on a vraiment cette sursollicitation du gros orteil avec l'extenseur propre de l'hallux qui prend souvent le relais du tibial antérieur, dans la flexion dorsale et également des fibulaires. On n'a absolument pas de motricité dissociée au niveau de cette cheville. Vous avez des beaux résultats sur la fin de séance, effectivement, où on est vraiment sur quelque chose avec une reprogrammation sur cet extenseur de l'orteil qui était sursollicité en permanence, qui prenait le relais systématiquement. Donc, on est vraiment sur le muscle qui a pris le relais au détriment des autres. Et derrière, réintégration du couple tibial antérieur fibulaire pour ce mouvement d'éversion. Alors, d'une manière plus largement, ça c'est l'exemple d'un patient, on va dire, qui a été suivi sur une période un peu plus longue, sur 18 mois, avec les résultats en ce qui concerne le schéma de marche d'une manière beaucoup plus globale. Le travail a été axé sur tout ce qui est la RNM du tonus, la reprogrammation neuromotrice du tonus postural et les fonctions motrices au niveau du membre inférieur. Donc, prise en charge sur 18 mois avec une reprogrammation neuromotrice toutes les 6 semaines en complément de sa prise en charge habituelle. Sur le test de marche, on a évalué en fait la longueur d'enjambée. Il y a une petite diminution de longueur d'enjambée en avril 2019, puisqu'en fait, on a enlevé la canne à ce moment-là, puisqu'il a acquéri un équilibre unipodal suffisant, lui permettant d'enlever sa canne simple. Également, vous avez exactement la même chose en ce qui concerne la vitesse de marche avec effectivement cette acquisition d'équilibre unipodal qui fait la différence entre ces deux courbes-là. Dans tous les cas, on est à chaque fois sur une progression. Donc les limites, vous avez bien compris, il y a un gros travail cognitif qui est demandé sur cette partie d'imagerie mentale, d'imagerie motrice. Donc forcément, les capacités cognitives trop dégradées dans les suites d'un AVC sont un frein à la mise en place de ce complément de rééducation. Les capacités d'attention doivent être de l'ordre de 10-15 minutes et les capacités de compréhension relativement préservées, au moins sur de l'ordre simple, sur de la question à choix binaire. Bien évidemment, l'atteinte mécanique franche sur tout ce qui concerne la rupture de la continuité osseuse, nerveuse. Bien évidemment, ça ne va pas réparer le schéma moteur puisqu'on est vraiment sur quelque chose de moteur. Et également, les patients qui sont hyperalgiques et qui vont avoir du mal à sortir, à aller chercher de l'image motrice sur du mouvement. Bien sûr, après, pour le patient hyperalgique, il y a plein de choses qui se font en imagerie mentale pour la gestion de cette douleur-là. Mais dans le cadre de cette reprogrammation neuromotrice même, ça fait partie des limites. Dans tous les cas, vous voyez qu'on est sur quelque chose qui est de non-intrusif, globalement sans effets indésirables ni secondaires qui sont connus à ce jour. C'est quelque chose qui s'inclut dans une prise en charge de rééducation. C'est un complément, ça ne se fait pas à la place. En aucun cas, l'objectif est de remplacer une prise en charge. L'objectif est là d'aider et de booster un petit peu une rééducation, on va dire d'avoir un petit un complément qui est intéressant et qui vous permet de sortir de situations un petit peu complexes. Donc imagerie mentale et plasticité, c'est un petit peu la question. Donc vous voyez qu'avec la plasticité cérébrale, les réseaux de neurones sollicités mentalement pourrait se restructurer pour obtenir un meilleur recrutement des unités motrices et un petit peu améliorer cette synchronisation. On a donc compris que ce travail d'imagerie motrice est en fait un entraînement mental, un petit peu comme l'entraînement physique, et qui agit du coup sur la plasticité cérébrale en permettant une réorganisation substantielle à deux niveaux, que ce soit sur la plasticité synaptique, dans les voies préexistantes encore fonctionnelles, mais également sur la plasticité dite anatomique, avec un entraînement probable de la formation de nouveaux circuits. À la fin du compte, cela permet d'améliorer le recrutement d'unités motrices et surtout la synchronisation de celles-ci. On pourrait se poser la question par rapport à ses capacités cognitives, mais ou surtout sur comment savoir si mon patient est un bon ou mauvais imageur. Donc pareil, dans la littérature, vous trouvez beaucoup de choses en ce qui concerne les tests du bon ou du mauvais imageur, donc ce qui concerne la chronométrie, les tests de rotation mentale. La rotation mentale, hein, c'est le membre qui est placé dans différentes situations, par exemple sur une main, et arriver à visualiser si on est sur une main droite, une main gauche. Le questionnaire CAVIC-20 qui comprend 10 items de position corporelle, comme avec une position de départ, on effectue le mouvement, on s'imagine exécuter le mouvement, et derrière on va coter en fait la clarté de l'image visuelle et également l'intensité de la sensation kinesthésique. Donc c'est pour ça CAVIC 20. Tous ces tests-là, effectivement, qu'on trouve dans la littérature, nous permettent d'identifier si le patient est un bon ou un mauvais imageur. C'est très intéressant quand on fait de la recherche clinique de manière à avoir une population la plus homogène possible. Dans le cas d'une prise en charge de rééducation, ça n'a pas forcément de pertinence, je dirais, dans le sens où déjà le patient est capable d'apprentissage sur l'imagerie mentale. Voilà, ça serait pas forcément un facteur discriminant, on va dire, c'est pas un facteur d'éligibilité du patient à un travail d'imagerie mentale, parce que l'équivalence temporelle entre l'action réelle et imaginée est relativement secondaire dans le cadre d'une récupération thérapeutique, contrairement à la pratique sportive. Le seul critère vraiment intéressant sont les capacités cognitives. Il est tout à fait possible, en fait, en une à deux séances d'imagerie mentale, d'initier déjà le patient à ce travail-là, donc du coup d'être sur un phénomène d'apprentissage. Dans tous les cas, l'imagerie mentale, par contre, nécessite un petit peu un cadre méthodologique, donc évaluer rapidement les capacités du patient, on en a parlé, expliquer la nature du traitement, bien évidemment, enseigner cette technique d'imagerie, et c'est là où vous aurez effectivement ce côté apprentissage du patient à la technique d'imagerie de manière à développer ses capacités, à booster ses capacités d'imagerie mentale. Intégrer le traitement dans la prise en charge, c'est l'idéal, c'est ce que je vous ai dit, ça ne se supplémente pas à une prise en charge, c'est complémentaire. Et bien sûr, être flexible dans les capacités du patient à auto-générer son traitement, c'est-à-dire rendre le patient acteur de son traitement. La pratique clinique concerne cet aspect avec les capacités physiques, l'environnement. Vous imaginez bien que c'est compliqué de faire de l'imagerie mentale dans un environnement qui est bruyant, avec plusieurs personnes, des déplacements. On est plutôt en général sur un environnement qui est calme. La capacité de verbalisation du patient, à exprimer ce qu'il ressent d'un point de vue capacité d'imagerie, capacité de sensation proprioceptive, le timing. Les temps de timing, en général, les temps d'imagerie sont assez courts, hein. On est de l'ordre de 15 à 20 minutes. En fait, au-delà, souvent, il y a une fatigabilité relativement importante. Et en fait, la répétition d'exercices enchaînés d'imagerie mentale a tendance à être pas suffisamment bénéfique. C'est pas plus on en fait, mieux c'est. Enfin, je veux dire, sur un temps court, c'est plutôt faire des petites séquences à, du coup, intégrer dans les séances de prise en charge. L'apprentissage et puis tout ce qui concerne les émotions, puisque vous avez vu qu'entre autres dans cette notion d'inhibition motrice, il y a une part un petit peu émotionnelle d'appréhension. Et bien sûr, le côté perspective, on en a parlé sur l'imagerie mentale visuelle, interne, externe, la caméra embarquée ou la caméra extérieure qui filme, et d'aller chercher carrément sur du kinesthésique. Donc non, du coup, à la fin du compte, hein, cette reprogrammation neuromotrice, quelles sont les indications? Donc en fait, une très large majorité de patients, neuro, ortho-traumato, neuro sur tout ce qui est régulation de la spasticité, récupération motrice, schéma syncinétique, l'ortho-traumato, bien sûr, sur tout ce qui est les pertes d'amplitude active, l'instabilité chronique, les sites opératoires, les luxations, les dyskinésies, les pertes de force, de rapidité, de précision, mais également dans le sport aussi, pour tout ce qui est modifier un geste à visée prophylaxique ou performance. Après, vous avez un large domaine d'application de cette imagerie mentale, de cette imagerie motrice et du coup de cette reprogrammation neuromotrice. Donc, on est totalement complémentaire pour potentialiser une prise en charge post-AVC. Un peu le message que je voudrais pas vous faire passer ce soir, c'est-à-dire que dans la suite de la post-AVC d'une manière plus large, dans toute prise en charge rééducative, je vous invite à réfléchir, à vous documenter, voire vous former à ce travail d'imagerie motrice et de proprioception. Le but est d'avoir une flèche de plus en fait à son arc rééducatif, dans sa boîte à outils de rééducateur, dans le but d'améliorer vraiment la qualité de vie de nos patients. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous remercie d'avoir réfléchi, participé, de vous être interrogé sur ces différentes possibilités d'améliorer la prise en charge de nos patients AVC de manière à les faire progresser le mieux possible. Je vous remercie. Bonne soirée à tous.